Bonjour, je m'appelle Julia, je suis élève de 6e et présentatrice de cette émission avec mon amie Wendy. Je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de Pitour. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir le capitaine Pitt. Tout d'abord, bonjour Pitt.
Bonjour Julia, bonjour Wendy, bonjour à tous. Je suis très content de faire votre connaissance, et c'est un plaisir d'être ici et de vous rencontrer enfin, car on discute depuis un petit moment. Je vais vous présenter le projet et tenter de répondre à vos questions, donc allez-y.
Quel âge as-tu ?
Alors j'ai 28 ans, presque 29. Mon anniversaire c'est le 30 novembre, dans la fin du mois là. Je suis né à Montpellier et j'ai grandi dans le village de Saint-Gilles-du-Fesque, c'est juste à côté de chez vous.
Quelles ont été tes études ?
Alors, j'ai fait comme vous, j'ai fait le collège, lycée. Mon lycée était à Montpellier. Ensuite, j'ai passé mon bac. J'ai fait 2 ans d'études à l'université de Montpellier en génie électronique. Ensuite, je suis parti faire un service civique. Alors, c'est un service civique dans une école de voile qui s'appelle les Glénans. J'étais sur place. En gros, j'ai aidé à la préparation des voiliers. J'ai donné des cours de voile, beaucoup de cours de voile. C'était une expérience super pour moi parce que après le lycée, j'ai commencé direct à faire des études et j'étais pas vraiment encore sûr de ce que je voulais faire. Et le fait de mettre les pieds à l'étrier, comme on dit, d'aller travailler sur une école et vraiment de mettre en pratique tout ce que j'avais appris, ça a été une super expérience et j'ai découvert par la même occasion le monde de la voile. Après les Glénans, en fait, j'ai pris la décision de faire un tour du monde. Et je me suis dit, pour faire un tour du monde, comment j'allais y parvenir. Donc, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, il faut financer, il faut des étapes. Et du coup, je me suis dit, pour financer mon projet, il fallait faire quelques études pour arriver à un métier d'officier de marine marchande. Donc, officier de marine marchande, en gros, c'est piloter des navires de commerce à travers le monde. Donc j'ai commencé une formation en Belgique, à Anvers, qui a duré 4 ans. C'est un bachelor et un master. Et du coup, les cours étaient en anglais. Donc c'était super intéressant parce que je ne parlais pas très bien anglais à l'époque. Et ça m'a permis un petit peu d'apprendre. Et à la fin de ce master, j'ai commencé à travailler comme officier de marine marchande pour la compagnie française Ponant.
Pourquoi as-tu choisi de faire le tour du monde ?
Cette décision, en fait, c'est une fois que j'ai commencé à faire de la voile. Je me suis dit, la Méditerranée c'est bien, mais c'est un petit peu petit. Et je voulais aller voir plus loin. Donc, plus loin, c'est traverser les océans. Puis, quitte à traverser un océan, autant traverser deux. Et donc, du coup, je me suis dit, allons découvrir le monde, allons découvrir les populations qui nous entourent, et pour mieux comprendre, qu'est-ce que je pouvais y apporter et où était ma place sur Terre.
Penses-tu que c'est de la chance ?
Clairement, oui, c'est une chance de réaliser ses rêves. Et en plus, d'autant plus une chance de réaliser un rêve et de pouvoir le partager avec mon équipage et avec vous qui allez nous suivre aussi durant toute cette aventure.
Penses-tu que tout le monde peut faire comme toi ?
Réaliser ses rêves, oui, tout le monde peut y arriver. Faire un tour du monde, ça se prépare quand même, faut une petite expérience, mais ça demande, faire un tour du monde, il faut une certaine maîtrise de la navigation, faut avoir le bon matériel, faut connaître un peu la mer, oui, mais ça peut être envisageable pour chacun.
Avec qui vas-tu faire ce tour du monde ?
Alors du coup, je pars avec ma compagne Louise qui est derrière nous. Je pars avec Marty, un de mes meilleurs amis, et je pars avec la copine de Marty, qui s'appelle Margot.
Bravo l'équipage, bravo !
Es-tu sensible à la pollution ?
Oui, bien sûr, je pense qu'on l'est tous, à force d'en entendre parler, de voir des images, d'entendre des rapports. C'est ce qui a motivé mon voyage à la base, en fait. C'était vraiment pour aller me rendre compte par moi-même de ce qui se passait dans le monde et faire un peu un point personnel et un point que je vais essayer de médiatiser. Je vais montrer, en fait, voilà, à travers ce voyage en voilier, qu'il est possible d'aller loin sans forcément polluer et en ayant un mode de vie responsable, éco-responsable. Et voilà, et avec mon équipage, on compte publier pas mal de photos et des petits rapports de ce qu'on va voir pour essayer de sensibiliser un maximum le grand public et notamment les plus jeunes comme vous.
Sais-tu combien de tonnes par an y a-t-il de pollution ?
Alors, comme je disais avant, mon parcours après études, c'était officier de marine marchande, donc j'ai travaillé sur des gros bateaux de commerce. Donc c'est des bateaux qui polluent beaucoup. Ces bateaux-là, en fait, ça représente 90% du transport de marchandises à travers le monde. Donc c'est directement lié à la pollution d'aujourd'hui. Le fret maritime représente la majorité du trafic commercial dans le monde. Il y a des millions de personnes qui empruntent chaque année ce mode de transport pour se déplacer, donc grâce à des ferries, grâce à des croisières privées aussi. Il y a plus de 100 000 cargos qui sillonnent le monde et du coup ça représente 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un peu important quand même.
As-tu déjà pensé à construire un bateau qui ne pollue pas ?
Oui, quand j'étais étudiant, j'ai fait un mémoire sur un projet du commandant Cousteau. Il a construit un bateau avec une espèce de grande voile qu'on appelle turbo-voile. Et du coup, durant mes études, j'ai reconstruit ce bateau à une maquette réduite. Je l'ai construit dans ma cave à l'époque. J'avais une grande cave et j'ai fait une énorme soufflerie pour reproduire un peu les conditions qu'on aurait en mer. Et j'ai mis ce bateau-là dans ma soufflerie et j'ai observé comment ça fonctionnait. Et ce bateau, du coup, pouvait traverser les océans sans forcément polluer. Donc, j'y pense à construire ce bateau-là et si un jour la vie m'amène à pouvoir le réaliser, je serais carrément content. Ouais.
Mais ça, c'est cool. Après, as-tu déjà vu des requins et des baleines ?
Plein. En fait, quand je suis sur mon voilier, avec l'équipage, on est tout le temps les yeux rivés sur l'horizon à la recherche d'ailerons et de souffle, car les baleines, quand elles respirent, en dehors de l'eau, ça fait un énorme souffle. Et du coup... Depuis mes 13 ans, je travaille avec une asso de préservation de l'environnement qui s'appelle Si Belle Planète. Et du coup, j'ai commencé comme à l'époque simple matelot, équipier. Donc, en fait, c'est une asso qui part en Méditerranée, dans le sanctuaire du Pélagos, on y reviendra plus tard. Et du coup, on cherche les baleines et on fait des photos de ces baleines. Car l'aileron de ces baleines, en fait, c'est chaque baleine a des cicatrices et on peut l'identifier grâce à ces cicatrices. Et du coup, on prend en photo son aileron. Et d'année en année, on arrive à suivre une baleine en la reconnaissant grâce à ses cicatrices. Et du coup, je partais avec Si Belle Planète. On a vu en Méditerranée, on a vu des plein de dauphins, des cachalots, des rorquals, des tortues. C'est très très riche, la Méditerranée. Et là, durant le tour du monde, on va essayer aussi pas mal d'apprendre parce que je connais pas toutes les espèces, tous les mammifères qu'il y a autour de la planète. Donc, ça a été pas mal de découvertes. Mais oui, j'en ai vu pas mal et on va continuer d'en voir.
Sais-tu quels sont les animaux marins les plus dangereux ?
Les animaux marins les plus dangereux, est-ce qu'il y en a ? Ouais, il y a bien sûr, il y a tout ce qui est prédateur en fait. Ben, il y a la chaîne alimentaire qui est respectée dans l'océan. Et du coup, il y aura des animaux qui vont avoir tendance à vouloir en manger d'autres. Après, est-ce qu'ils sont dangereux ? Oui, il y a toujours. Nous, on reste quand même des habitants de la planète, des animaux aussi. Et du coup, il y a des, par exemple, les requins. Il y a les grands préjugés sur ces requins-là. Mais moi, j'en ai déjà vu. J'ai nagé avec des requins. C'est pas non plus si méchant que ça. Je connais une espèce de méduse en Australie. Je suis pas spécialiste de cette méduse, mais je sais qu'elle est aussi très très dangereuse. Une petite piqûre et ça peut faire. C'est pas très cool.
Quel est ton animal marin préféré ?
Alors moi, je suis vraiment passionné par la baleine. La baleine est plus précisément le rorqual commun. En fait, ce qui est vraiment touchant chez cet animal, c'est son regard. Ils ont déjà un œil très très gros et quand il te regarde sous l'eau, c'est très profond Et j'ai l'impression de pouvoir lire le monde à l'intérieur, tellement que c'est un animal qui est sage et majestueux.
Sais-tu quel est l'animal marin le plus ancien du monde ?
Bonne question. Je sais qu'il y a un requin au Groenland qui peut vivre jusqu'à 400 ans, en fait, parce que l'eau est très froide là-bas. Et du coup, il a un sang spécial, il a un cœur qui bat très lentement, et du coup, il arrive à vivre. Voilà, je crois qu'il y a un record autour de 400 ans.
En combien de temps comptes-tu faire ce tour du monde ?
Alors, pour l'instant, on part pour 3 ans. Donc, on s'est fixé une date de 3 ans qui peut être peut-être moins, peut-être plus. Et voilà, ces 3 ans, c'est pour. Le monde est assez grand et très riche, donc c'est pour prendre le temps d'observer et d'apprendre. je sais pas trop encore exactement quel pays je préfère. On verra bien. Je pense qu'il faut y aller, il faut le voir pour le croire, il faut y aller pour se faire une idée. Mais j'ai une petite idée, ouais, ce serait la Polynésie et notamment les Marquises qui m'intéressent.
Quel est le premier pays que tu vas visiter ?
Alors, niveau du voyage, on va faire un départ de 7, le 5 décembre. Ensuite, le projet, c'est de descendre dans le sud de l'Espagne, à Alicante. Puis, on va passer le détroit de Gibraltar. On va faire un premier arrêt aux îles Canaries. Donc, c'est des îles espagnoles au large de l'Afrique. Là-bas, on va s'arrêter. On va attendre qu'il y ait une bonne fenêtre météo. Puis on va traverser l'océan Atlantique, direction les Caraïbes, arrêt en Martinique. Ensuite, on va faire quelques navigations aux Caraïbes, puis on va traverser le canal de Panama. Donc c'est le canal en fait qui relie le côté Atlantique au côté Pacifique. Et donc après dans le Pacifique, on va faire un peu de Costa Rica, Galapagos. Et après on va arriver en Polynésie, Nouvelle-Calédonie.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses.
Et nous te souhaitons un bon voyage et te remercions de partager cette super expérience avec nous.
Et c'est moi qui vous remercie et je vous dis surtout à bientôt et à la prochaine.
J'ai sélectionné pour vous la musique de Happy Day de Léo Land que Pete adore et écoute en naviguant. Maintenant, je vais laisser la parole à notre ami Colin, qui va nous présenter son article sur « Que fait l'humain pour détruire la faune et la flore ?»
Ouais, bravo,
bravo. Alors bonjour, chers auditeurs. Je vais vous présenter « Que fait l'humain pour détruire la faune et la flore marine ?» Et déjà, la pêche, pourquoi ? Et l'industrie, on verra ça après, pourquoi ? Déjà la pêche. La pêche à la dynamite, au harpon, au filet, détruit beaucoup les récifs. Les poissons disparaissent de plus en plus. En plus, à cause des activités humaines qui sont trop intensives. Des tonnes et des tonnes de poissons sont pêchés. Car si nous diminuons beaucoup la pêche, c'est-à-dire prendre seulement ce que nous avons besoin, la faune aura le temps de se développer. Il faut absolument éviter de tuer les animaux qui ne nous intéressent pas. Dauphins pris dans les filets, tortues, requins, etc. La pêche est la dynamite, une pêche dévastatrice. La pêche à la dynamite détruit beaucoup l'écosystème. Celle-ci consiste à jeter une dynamite dans l'eau et en étant qu'elle explose. Une fois cela fait, les poissons remontent à la surface. Mais la plupart des poissons coulent et ne sont pas récupérés par les pêcheurs. Et les coraux sont détruits dans l'explosion. La pêche au harpon. Quand on parle de la pêche au harpon, pour vous, ce n'est pas ça qui va détruire l'écosystème. Eh bien si, cela le détruit. Bon, il y a aussi la pêche à la dynamite, la pêche au filet, mais la pêche au harpon favorise aussi à la destruction de l'océan. Car une personne qui tue 4 poissons, ce n'est pas ça qui va détruire la faune marine. Mais s'il y a 10 000 personnes qui pêchent 4 poissons, chacun, ce qui est le cas, là, ça détruit beaucoup les récifs, en tout 40 000 poissons pêchés dans la journée. C'est assez beaucoup. La pêche au filet, elle aussi est encore plus que les autres, car en plus de pêcher une tonne de poissons par bateau et par jour, la plupart des poissons sont jetés juste après et une petite partie mangée. Des dauphins, des tortues, des requins ne nous intéressent pas, alors au lieu de les relâcher vivants, on les tue et on les relâche. L'industrie, ce n'est plus la pêche maintenant. Quand on parle de l'industrie, c'est pas McDonald's ou les bouteilles de Coca qui vous font grossir. Non, c'est pas ça. C'est tous les plastiques rejetés dans la mer et les forêts. Aussi les gaz rejetés par les usines qui favorisent le réchauffement climatique. Les marées noires qui tuent tous les poissons sur leur passage. Un peu tout ça. Les plastiques avec énormément de... Enfin voilà. Plastique et encore du plastique. Les plastiques, les cotons-tiges, sacs plastiques et encore j'en passe. Ou même tous les objets de tous les jours, canettes de soda ou encore boîtes en carton, qui sont jetés dans la mer ou les forêts et qui tuent tous les animaux en les faisant souffrir, nous y compris. Et cela développe des maladies, cancer, peste, et fait développer des maladies graves ou des handicaps aux nourrissons. Les usines, elles aussi. Et puis ce n'est pas seulement le plastique qui pollue, mais aussi ceux qui fabriquent le plastique, donc les usines. Les usines rejettent énormément de dioxyde de carbone, autrement dit le CO2, et d'autres gaz qui sont très toxiques pour l'être humain. Et fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils développent des maladies. Voilà pourquoi ce que nous faisons n'est pas bien, et pour la planète, et pour les êtres vivants qui y vivent. Alors faites un effort. Mais ce que nous vous disons dans ce message, ce n'est pas de passer votre vie à nettoyer les plages, Mais si vous voulez faire l'équivalent, faites juste un petit geste de temps en temps, par exemple. Je vois un déchet par terre, je le ramasse pour le jeter à la poubelle la plus proche. Ou bien j'ai fini ma canette de soda, je ne la jette pas par terre, mais à la poubelle. Parce que tous les plastiques que vous jetez par terre retombent dans la mer.
Merci, Cola.
Bravo, Cola.
Nous continuons notre émission Pit Tour avec Elliot et Amaya qui vont nous présenter leur article sur les animaux marins.
Bravo!
Les animaux marins. Nous pouvons trouver sur Terre un grand écosystème qui possède une vaste biodiversité d'espèces et de plantes.
En fait, il est si grand que les scientifiques ne connaissent pas toutes les espèces qui peuplent les fonds marins. Il existe plus d'une centaine de milliers d'espèces marines et les chercheurs n'en trouvent qu'environ une dizaine par an.
Perdre certains poissons serait la perte de beaucoup de chaînes alimentaires. Mais quel est l'intérêt de les protéger? Tout d'abord, il nous faut définir la pollution. Polluer, c'est dégrader l'air, un lieu, quelque chose, le rendre malsain, dangereux et y répandre des matières toxiques. Souiller quelque chose par quelque chose qui le salit, le dénature.
Je vais vous donner la définition de la débilité. C'est un caractère de ce qui est d'une grande stupidité. Voilà la définition qui correspond au pollueur.
Il y a des animaux qui n'ont absolument rien demandé et qui subissent toutes les bêtises des humains. Un des intérêts de les protéger est que quand un animal mange des détritus, des millions de petits organismes se développent en eux et leur détruisent l'intérieur du corps.
Par exemple, la tortue mange des méduses, mais réfléchissez à quoi ressemble le plastique. Alors, eh bien oui, elles prennent le plastique pour leur nourriture.
Reprenons. Quand nous mangeons du poisson et que lui a mangé des déchets, cela veut dire que nous aussi, on mange du plastique.
Bravo.
Maintenant, vous allez écouter la chanson de Trio, Ce que l'on s'aime.
J'aurais préféré pour toi juste inverser le cours des choses. J'aurais aimé.
Et toi ?
Une main tendue, une rose.
J'aurais aimé de toi la certitude d'un geste. Simplement quand ça ne va pas, ne pas se fuir comme la peste.
Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème.
J'aurais préféré, ma foi, éviter nos sombres démences. Et maintes fois, oublier partir en vacances. En vacances de toi, et comme l'amitié nous rattrape à chaque fois. Autant tenir quand ça dérape.
Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. J'aurais bien voulu, tu sais, tenir le cap, sauver les murs, courir sans m'arrêter, ne pas frissonner sous l'armure.
Et j'aurais voulu, tu sais, la longue traversée tranquille. J'aurais même imaginé
ne jamais atteindre une rive. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème.
J'aurais aimé, tu sais, éviter nos fausses mesures. J'aurais même préféré de nous une lettre d'injure.
J'aurais voulu parfois, oui, t'étrangler aux quatre vents, te serrer dans mes bras. Ah ça, je l'ai voulu souvent. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème.
Après cette petite minute de détente, nous retrouvons notre chère amie Gaïa pour son documentaire sur les déchets. Gaïa.
Bonjour, je vais vous présenter un article de sensibilisation des déchets rejetés dans la mer. Les déchets font maintenant presque partie de la mer et des océans. Tout est de notre faute. La faune, la flore est détruite à cause de tout ce plastique. Bouteilles, paquets de gâteaux, objets électriques. Tout ça pour des besoins inutiles. Avant, on jouait avec des oranges, les gars. Peut-être que demain, les baleines n'existeront plus. Et nous, on va se dire que ça fera plus de place pour nos anciennes consoles, qui marchent encore, pour de nouvelles technologies. Et tout ça, ce sera pour les générations à venir. Donc essayez, quand vous trouvez du plastique par terre, ramassez-le et jetez-le. C'est simple comme geste. Tu te baisses, tu le jettes, tu te baisses, tu le jettes. Car la mer, c'est comme notre cœur. Aucun être vivant ne peut vivre sans elle. Donc en gros, si on n'en prend pas soin, on meurt. Et maintenant, une réflexion philosophique humoristique du docteur qui s'en fout.
Les hommes savent que si on la détruit, on ne peut pas survivre. Mais j'ai une théorie, c'est la faute des oranges. Et oui, on croit qu'elles ne servent à rien, mais réfléchissez. Elles nous en veulent de ne pas préciser leur nom dans les pubs. Donc elles ont tout organisé avec leurs amis les pommes. La preuve, les iPads Apple. Je suis sûre que vous en avez déjà fait tomber un dans la mer. Je suis un génie.
Et pour finir, Bertie va nous raconter l'épisode 1 de Pete le pirate.
Il était une fois un pirate nommé Pete. Il avait un trésor tellement gros qu'il n'y avait plus de place sur l'île où d'habitude il cachait ses butins. Pete vivait sur une île paradisiaque, cachée de tous. Il avait à ses ordres 100 000 hommes. Enfin, c'est ce qu'il disait, car en vérité, son butin ne remplissait même pas un coffre, son équipage était dessiné sur du carton. De plus, il habitait dans une cabane même pas étanche, et les personnes qui connaissaient son secret le surnommaient Pinocchio en raison de son nez. Pete avait grandi sans famille, il avait réussi à survivre en faisant les poches à de riches touristes. Depuis son plus jeune âge, il rêvait de parcourir l'océan. C'est pour réaliser ce rêve qu'il partit de sa ville natale en quête d'un navire. Mais comme il n'avait pas beaucoup d'argent, il ne trouva point de bateau. Il commença alors à dire à qui voulait l'entendre qu'il était riche, avait un grand équipage et vivait sur une superbe île. Mais un jour, il en eut marre de cette vie de mensonges. Alors, il prit le peu d'argent qu'il avait, s'acheta une petite barque, quelques provisions et partit sur l'océan en quête d'aventure. Vous aurez la suite à la prochaine émission.
Bravo. Bravo.
Et maintenant, nos amis Elliot et Yasmine vont nous présenter leur article sur la thalassophobie.
Thalassophobie, du grec ancien, prononcé phallos, dit thalassa, signifiant mer, et prononcé phrogouste, phobos, signifiant peur, et la peur intense et persistante de la mer. D'après plusieurs enquêtes, l'océan et l'eau font partie des plus grandes peurs communes. Avant même d'avoir peur des requins, nous avons déjà peur du milieu dans lequel nous pouvons en rencontrer. Cette phobie peut être alimentée par une connaissance rationnelle ou au contraire de la superstition nourrie par la méconnaissance, voire l'ignorance, des espèces qui peuplent les mers. L'eau est un environnement inconnu où nos sens ne fonctionnent plus correctement. Nos mouvements et notre locomotion sont anormaux. Alors, pour résumer, dans l'eau, nous nous sentons particulièrement vulnérables et donc notre imagination va combler les lacunes de nos sens.
Moi, par exemple, j'ai peur des vagues, car en fait, je ne vois plus mes pieds ni mes mains quand je nage. Et j'ai aussi peur des murs de vagues extrêmement imposants. Et oui, quand nous sommes face à des monstres, à ces monstres, notre cerveau commence à paniquer et nous finissons par nous faire emporter. Mais rassurez-vous, vous avez quasiment aucune chance que cela vous arrive. C'est peut-être notre cerveau archaïque qui nous fait penser à la possibilité d'être blessé et de son incapacité à réagir à ce qui amplifie nos craintes. Alors, si tu as cette phobie, pense à des petits poissons mignons qui nagent une mer claire et belle. Fin.
Bravo !
Merci beaucoup à Victor qui a écrit cet article. Cet épisode de Pete Tour se termine. Je remercie tous les participants de cette émission pour leur article. Et surtout, merci à Pete d'être venu nous rencontrer et répondre à nos questions. Nous avons hâte de partager tes aventures. Cette année, les classes de 6e 1, 6e 2 et 6e 5 vont écrire des poèmes, faire des vidéos, un site internet et danser en tout suivant. Le fils conducteur sera le thème de l'aventure. Et une vidéo est aussi prévue. Merci à Shane et Maëlle qui ont assuré la technique de cette émission. On remercie également le comité de rédaction.
Merci à Frédéric, professeur documentaliste, qui nous accompagne pour la réalisation et la préparation de ces émissions et surtout de ce projet passionnant. Dans la prochaine émission, nous vous réservons beaucoup de surprises. À bientôt. Vous pouvez réécouter cette émission dans son intégralité en podcast sur le www.radioescapade.org. À très bientôt.
À Radio Escapade et à Maria. Oh,